Voilà, et bien aujourd'hui, le texte que j'ai choisi, je ne suis pas allé le chercher très loin, puisque j'ai décidé de prendre la suite de notre lecture suivie dans Marc. Donc, si vous avez bien suivi, nous en sommes au chapitre 2, au verset 18. Et donc, je vais vous lire les versets 18 à 22. Les disciples de Jean, de Jean le Baptiste donc, et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus: Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé. Alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, sinon le morceau neuf qu'on ajoute tire sur le vieux vêtement, et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. Alors, je trouve que Jésus a ceci de frustrant, que lorsqu'on lui pose une question simple, il répond toujours d'une manière un peu décalée, un peu déconcertante. La question n'est pas compliquée, hein. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ses interlocuteurs soient repartis pleinement satisfaits. Et pourtant, nous allons découvrir combien la réponse de Jésus est riche. Alors, dans l'évangile de Marc, au moment où se situe notre récit, notre passage, la renommée de Jésus est déjà considérable. Une foule nombreuse se presse pour l'écouter, et les pharisiens commencent à scruter ses faits et gestes avec attention. Ils ont été bousculés par le fait qu'il pardonne les péchés du paralytique et qu'il ose manger avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Rappelez-vous, c'est dans ce contexte qu'il a appelé Lévi ou Matthieu. À présent, ce sont ses disciples dont les actes sont observés et remis en question. Il est intéressant de noter au passage que l'interrogation ne vient pas seulement des pharisiens, mais aussi des disciples de Jean. Il est probable que les motivations des deux groupes ne soient pas tout à fait les mêmes, hein. On connaît bien sûr le côté accusateur des pharisiens qui se veulent garants des rituels juifs, mais les disciples de Jean, quant à eux, ont entendu l'appel à la conversion du prophète. Et ils sont probablement en chemin. Il y a peut-être davantage de curiosité et d'ouverture de leur côté. Ça veut dire aussi qu'on a le droit de questionner les faits et gestes de Jésus, même de bonne foi. C'est même une bonne chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pratique, ou plutôt la non-pratique, en l'occurrence là, de Jésus, interroge. Et en effet, contrairement aux disciples de Jean ou aux pharisiens, les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Alors, vous connaissez probablement comme moi de nombreuses personnes qui pratiquent le jeûne de façon régulière ou occasionnelle. Chacun a sa motivation. Ça peut être par religion, comme pendant le ramadan pour les musulmans. Ça peut être pour des raisons de santé, parce qu'on pense que c'est bon pour notre santé. Ça peut être simplement une question de bien-être, parce que ça fait du bien. Chacun sa méthode, chacun son petit rituel. Pratique parfois en groupe, parfois individuellement. Mais ici, quel sens est-ce que ça revêt pour les juifs contemporains de Jésus? Alors, revenons un petit peu à l'Ancien Testament pour revoir quel est le sens du jeûne. Alors, dans l'Ancien Testament, une des raisons qui conduit le peuple de Dieu à jeûner, c'est le désir de prévenir ou de mettre fin à une calamité, à une guerre, en priant pour que Dieu soit miséricordieux et pour recevoir son pardon. C'est une manière d'implorer Dieu. Il a notamment lieu pour le peuple hébreu tous les ans au moment de la fête du Grand Pardon. La fameuse fête du Yom Kippour qui a lieu à l'automne. On voit ça dans Lévitique chapitre 23, verset 27. Le dixième jour du septième mois sera le jour du grand pardon. Vous vous réunirez, pardon, en assemblée solennelle pour le Seigneur, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice consumé. Et donc, c'est un signe de pauvreté intérieure. Et puis, le jeûne, tout comme l'aumône ou la prière, permet, entre autres, d'implorer le pardon des péchés. On peut trouver aussi des jeûnes de commémoration. Donc, dans Zacharie, chapitre 8, verset 19, je vous le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, les jeûnes que vous observez pendant le 4e, 5e, 7e et 10e mois de l'année deviendront désormais, pour le peuple de Juda, de grandes fêtes pleines de gaieté et de joie. On sait par ailleurs que c'est une pratique qui est très commune, hein. On voit David, le roi David, il jeûnait régulièrement, y compris pour ses adversaires, enfin en faveur de ses adversaires. Et puis, le jeûne peut parfois prendre une forme extrême. On parle même parfois de jeûne surnaturel. Je pense à Moïse dans Exode 34, ou à Élie, où c'est suggéré en 1 Roi 19, et puis évidemment à Jésus. Ils ont tous les trois fait des jeûnes complets de 40 jours. Mais Moïse l'a même fait deux fois. Donc des jeûnes complets où a priori ils ne prennent ni nourriture ni boisson. Alors ici dans notre texte, puisqu'une partie de la communauté juive observe ce jeûne, et puis qu'il est attendu que Jésus et ses disciples fassent de même, on peut supposer qu'il s'agit d'un jeûne plutôt rituel, inscrit dans le calendrier, peut-être celui du grand pardon, qui sait. Et donc pourquoi déroger à la règle? Jésus serait-il hostile à cette pratique? Eh bien oui et non, en fait. Bien évidemment non, puisque comme on vient de le rappeler, il a lui-même jeûné dans le désert. Même si, en fait, dans le livre de Marc, il n'est pas dit explicitement que Jésus a jeûné, hein. Il y a juste une petite phrase et il n'est pas question du jeûne, mais les autres évangiles en attestent. Donc, Jésus pratiquait le jeûne, hein, évidemment. Et puis, dans la réponse qu'il fait, on voit bien qu'il ne désapprouve pas la pratique. Il expose simplement que là, ce n'est pas le moment. En effet, puisque le jeûne, c'est d'abord un acte de contrition, d'humiliation volontaire, dans le but de se rapprocher de Dieu et de notre prochain, avec la comparaison que Jésus donne, ce serait vraiment pas le moment. En effet, il parle d'une noce. Une noce, c'est donc un événement festif. Jésus exprime que les disciples vivent une sorte d'état de grâce. Le temps est à la joie, ils sont près de l'époux. Et donc, ils sont aussi dans la proximité de Dieu, en la personne de Jésus. Donc, s'ils sont déjà dans la proximité de Dieu, le jeûne n'est pas utile dans ce contexte. Et alors, par cette image, Jésus lance indirectement une interpellation à ses auditeurs en rappelant au sens même de la pratique. Et vous jeûnez aujourd'hui parce que c'est inscrit dans le calendrier, mais est-ce que ça fait vraiment sens pour vous? Est-ce que ça fait vraiment sens pour mes disciples ici présents? Alors il s'agit en apparence d'une transgression de la loi, ou en tout cas d'un non-respect d'une tradition inscrite probablement au calendrier, mais par sa réponse, Jésus renvoie ses interlocuteurs à leur motivation. Et exprime de manière indirecte que l'attitude extérieure importe peu. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on lit dans l'Ancien Testament par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Le jeûne tel que je l'aime, dit Dieu, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. On remarquerait qu'il n'est pas trop question de nourriture, à part partager son pain, ce qui sous-entendrait presque qu'on peut manger pendant cette période de jeûne, donc c'est un peu contradictoire. Non, le sens premier du jeûne n'est pas juste une privation de nourriture. On comprend là qu'il s'agit de bien autre chose qu'une simple obéissance à une loi ou à un rituel, et qu'on n'est pas dans une application légaliste des termes. J'ai employé plusieurs fois ce terme de légaliste, hein, comprenez bien ce que ça veut dire, légaliste, c'est qui s'attache vraiment à la lettre du texte et qui veut qu'on applique les règles telles qu'elles sont écrites sans forcément se soucier de l'esprit. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, c'est intéressant aussi de se rappeler que Jésus enseigne comment pratiquer le jeûne à ses disciples. Donc dans Matthieu 6, verset 16, enfin à partir du verset 16, Jésus leur dit: Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est intéressant de relever qu'avec une telle attitude, on évacue totalement le piège du légalisme. Il n'est même plus possible à un observateur de savoir si la personne jeûne ou pas. Peut-être que si vous observez cette pratique, là, vous êtes en train de jeûner et que je ne le sais pas. Cela devient une affaire intime entre la personne et Dieu, et non plus du tout une manière de faire valoir une attitude pieuse. Et donc cette manière de se défaire des apparences, de retourner au sens profond des préceptes de la loi, sera encore plus manifeste dans la suite du texte que je n'ai pas lu ce matin, dans la suite immédiate du récit sur la question du sabbat, où Jésus affirmera avec aplomb: Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, justement, puisque nous sommes dans une lecture suivie de l'évangile de Marc, prenons un peu de recul sur la progression du récit. Au chapitre 1, au verset 32, il était question de guérison, de malades et de démoniaques que Jésus accomplit, et on nous dit après le coucher du soleil. Cette petite indication laisse à penser que c'était après le sabbat, au moment où le sabbat a pris fin. Alors, je vous le dis parce que le fait qu'il guérisse les malades après le sabbat, du coup, on est dans les clous d'un point de vue de la loi, et notamment pour le regard des pharisiens. Ensuite, au verset 40, il est question de la guérison d'un lépreux. Et à ce lépreux, il lui dit expressément de ne rien dire à personne et surtout d'aller accomplir auprès d'un prêtre le rituel prescrit par la loi de Moïse. Alors je vous rappelle ces éléments pour montrer que Jésus, il s'inscrit dans la loi, dans les lois juives. Il ne cherche pas à tout prix à transgresser pour le plaisir de choquer ou de mettre sa patte, hein. Et puis, quand on avance dans le récit, à partir du chapitre 2, au premier verset, il y a le récit du paralytique, dont on a aussi déjà parlé ici, où Jésus guérit et il pardonne le paralytique. Et puis, au verset 13, il mange avec les collecteurs d'impôts. Alors là, sur ces deux passages, ça commence à chatouiller un peu les pharisiens, quand même. Il l'accuse de blasphème, puisque seul Dieu pardonne les péchés. Et puis, ils mettent en évidence ses mauvaises fréquentations, puisqu'ils mangent avec des pécheurs. Alors, c'est effectivement des actes inhabituels, mais Jésus n'enfreint pas la loi pour autant. Il bouscule les traditions et se révèle peu à peu comme ce qu'il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui est donc au-dessus de ces lois. Et puis arrive notre récit, au verset 18, là, donc la question sur le jeûne. La réponse que Jésus en fait, et puis au verset 23, que l'on verra une prochaine fois, la question du non-respect du sabbat. Alors là, cette fois-ci, on entre beaucoup plus en rupture avec la tradition, hein. Le jeûne que les Juifs pratiquent, Jésus et ses disciples ne le pratiquent pas, et ils se permettent de manger des épis de blé le jour du sabbat, ce qui est aussi normalement interdit, en tout cas selon l'interprétation des pharisiens. Donc Jésus, il semble s'émanciper des règles juives, mais à ce moment-là, c'est plutôt un acte naturel, spontané, de la part des disciples, c'est même probablement involontaire. On dit qu'ils font ça, ces disciples se mirent chemin faisant à arracher des épis, c'est pas, c'est quelque chose qu'ils font, peut-être qu'ils sont en train de discuter et que c'est même pas conscient. Et puis, je ne vais pas vous faire tout l'évangile de Marc, mais au chapitre 3, au début du chapitre 3, il est question cette fois-ci de la guérison de la main paralysée d'une personne dans la synagogue, et cette fois-ci, c'est explicitement pendant le sabbat. Et là, les pharisiens le mettent à l'épreuve directement, hein. Ils observaient Jésus pour savoir s'il le guérirait le jour du sabbat. Et que fait Jésus? Il assume ostensiblement cette transgression, entre guillemets. Et donc, suite à ces événements, après, Jésus va nommer les 12 et va les envoyer en mission. Et donc, si vous suivez cette progression, on est parti d'épisodes dans lesquels Jésus s'inscrivait pleinement dans la loi de Moïse, c'est dit explicitement. Et puis, petit à petit, il semble s'en émanciper, prendre son indépendance. En tout cas, c'est la vision, et puis la crainte, des pharisiens qui sont empêtrés dans leur vision légaliste. En réalité, Jésus ne cherche pas à s'affranchir des règles de la loi de Moïse, mais à les accomplir. C'est le terme qui est employé dans Matthieu. Et donc les accomplir, c'est-à-dire leur donner tout leur sens. Pour suivre un corpus de règles, il n'y a pas besoin d'être meilleur qu'un autre, hein, il suffit juste d'être discipliné. Ça ne demande pas de discernement, pas spécialement d'intelligence, et ça peut même être assez confortable finalement, parce qu'on sait ce qu'il y a à faire à tel moment, à tel endroit, et puis on ne se pose pas de questions. Mais surtout, cela se passe complètement d'amour et d'attention pour l'autre. Ce que Jésus inaugure ici n'est pas seulement une mise en garde contre le légalisme, c'est une véritable révolution. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 24, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément très lisible, en tout cas qui passait derrière les préceptes de la loi que suivent notamment les pharisiens. Alors, effectivement, nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance. Nous l'avons rappelé avec la Sainte Cène aussi. Jésus inaugure par sa venue, sa mort et sa résurrection une nouvelle alliance. Et donc, dans la réponse qu'il fait aux pharisiens, il emploie deux images. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ces histoires de vieux vêtements et de vieilles outres, ça ne m'a jamais trop parlé. En écolo convaincu, je suis plutôt partisan du réemploi ou de la réparation. Hein. Et spontanément, je trouve ça très bien de rapiécer un vieux vêtement. Hein. Et puis, si on peut réutiliser des outres pour le même usage plutôt que d'en prendre de nouvelles, je trouve que c'est plutôt bienvenu, vu les problématiques de ressources que l'humanité connaît. Mais, voilà, avec des vêtements en lin, des outres en peau de chèvre, hein, puisqu'il s'agit de ça, vraisemblablement, les problématiques de l'époque de Jésus, c'était pas le consumérisme effréné, ni la pollution au microplastique. Hein. Et justement, c'est bien parce que les gens savaient ce que ça représente de rapiécer un vieux vêtement, que l'image est parlante. Et donc, à travers ces deux exemples, ce que Jésus veut montrer, c'est que l'évangile et le judaïsme ne sont ni plus ni moins incompatible. Dans la lettre aux Hébreux, dont on ne connaît pas l'auteur, mais qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux Hébreux, donc à des Juifs, au chapitre 8, à partir du verset 13, il est dit « En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. » Il y a vraiment un avant, un après. La venue du Messie, mort et ressuscité, inaugure une nouvelle alliance dans laquelle son peuple n'est plus amené à suivre des lois gravées sur des tablettes de pierre, mais à vivre selon une loi d'amour que l'Esprit de Dieu vient graver directement dans les cœurs. Alors, concernant le vêtement, le problème décrit, c'est finalement un problème de mécanique, et ça me plaît bien. Ce qui fait que le tissu lâche, c'est que le nouveau ajoute des contraintes sur l'ancien. Il faut bien être conscient que les Juifs ne se contentaient pas d'appliquer les 10 commandements et les préceptes du Lévitique. Hein. Il existait une grande quantité d'habitudes et de coutumes religieuses qui venaient s'ajouter, que les siècles ont fini par ancrer, au point parfois de faire perdre de vue l'objectif initial, et aussi de donner des avantages à ceux qui maîtrisaient ces règles, hein, comme les pharisiens, comme nous l'avons vu pour le jeûne. L'obéissance au jeûne, l'obéissance scrupuleuse, sans forcément beaucoup de être conscient du... oublier peut-être le sens que ça avait. Je vous lis quelques versets dans Matthieu 23. « Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, dit Jésus, hein, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. » Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler maître par les hommes. Voilà, donc là Jésus pointe bien du doigt les travers du légalisme chez les pharisiens. Et donc il lit, je vous relis ce verset 4, il lit de pesants fardeaux et les met sur les épaules des hommes. Et Jésus n'est pas venu ajouter une surcouche à la loi. Il ne nous invite pas à customiser notre vieux vêtement, mais à en changer. Dans 2 Corinthiens, Paul nous dit « Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. » C'est au chapitre 5, verset 17, ceux qui veulent noter les références. Alors, pourquoi rapièce-t-on un vieux vêtement ? Moi, je vois deux raisons principales pour le renforcer, ou bien pour masquer une imperfection, un accroc, un trou, ou bien même les deux à la fois. Et je crois qu'une tendance naturelle de l'homme, c'est de rapiécer sa vie, de rapiécer lui-même sa vie. On va chercher à la renforcer de différentes manières. On va suivre des techniques de développement personnel pour se sentir bien. On va se poser des défis pour devenir quelqu'un. On va s'engager pour une noble cause. Malheureusement, tous ces beaux patchs de tissu ajoutés aux vêtements de notre vie ne font que tirer dessus sans pallier les fragilités. Un jour ou l'autre, il va lâcher. À défaut de le renforcer, on peut simplement tenter d'embellir notre vieux vêtement en tentant de masquer nos déchirures par des attitudes de façade, par des artifices. On va donner l'illusion que nous sommes de bons chrétiens. On fait bonne figure, on va à l'église, on fait baptiser ses enfants, on mène une vie en apparence bien rangée. Là aussi, ce sont de très beaux morceaux d'étoffe, ils nous rendent respectables, qui masquent les trous. Mais Jésus a des paroles extrêmement dures contre ceux qui cherchent à sauver les apparences. De nouveau dans Matthieu 23, verset 27, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites ?» Alors, bien sûr, scribes et pharisiens hypocrites, on dit c'est les méchants, c'est eux. Hein. Non, mais nous sommes aussi scribes et pharisiens hypocrites à nos heures. Hein. « Malheureux êtes-vous, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Ainsi en est-il de vous. Au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » On n'a pas envie de les prendre pour nous, ces paroles, parce qu'elles sont quand même sacrément radicales. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où, effectivement, on offre aux hommes à notre entourage l'apparence de juste, mais qu'au-dedans, on sait, on est rempli d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, versets 27 à 28 et 28. Voilà. Alors nous voilà prévenus. Ces morceaux d'étoffe neuve, non seulement ça ne masquera pas indéfiniment, mais ça rendra la déchirure pire, c'est ce que nous dit le texte. Cessons donc de vouloir rapiécer nos vies. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22, « Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. » Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Revêtir l'homme nouveau. Vous voyez que cette comparaison avec le vêtement n'est pas propre à ce petit extrait de l'évangile de Marc. Et c'est d'ailleurs ce que nous symbolisons au moment du baptême. Nous revêtons un vêtement blanc pour montrer que nous avons... que nous sommes régénérés. Et c'est aussi ce que dit Jésus à Nicodème, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, ce vieux vêtement, Jésus ne cherche pas à le rapiécer, ne cherche pas à le raccommoder, il veut nous en faire changer, nous faire repartir sur une base que lui aura mise en place, et pas sur notre... avec des trous partout qui vont faire que l'ensemble se déchire. Il y a une deuxième image dans ce texte. On va parler du vêtement, nous allons parler des outres. Alors, je n'ai pas l'habitude d'employer ce terme des outres, parce que nous, on a plutôt tendance de parler de bouteilles, ou je ne sais pas comment c'est traduit dans les traductions que vous avez sous les yeux, mais nous allons parler d'outres quand même. Donc, une outre, hein, représentez-vous la chose, c'est vraisemblablement quelque chose qui est cousu à partir de peau de chèvre, souvent souple, qui s'use et puis qui donc peut potentiellement éclater. C'est quelque chose qu'on verra mal avec nos bouteilles de Bourgogne chez nous, mais le vin nouveau dans de vieilles outres, il peut les faire éclater, c'est ce qui est dit dans le texte. Alors, cette image des vieilles outres apporte une dimension supplémentaire. Je vous relis le passage. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. Et donc à vin nouveau, outre neuve. L'incompatibilité entre le vin nouveau et les vieilles outres est absolue. Leur association fait éclater le tout. Tout est perdu. La sainteté de Dieu est telle qu'elle ne peut cohabiter avec le péché. Autrement dit, on ne peut recevoir pleinement l'Esprit de Dieu qu'avec un cœur repenti, en ayant totalement renoncé à notre nature de péché. Alors dit comme ça paraît totalement hors d'atteinte, hein. Mais n'oublions pas qui est le vigneron tout-puissant dans l'histoire. Ce vin nouveau, mis en bouteille à la propriété, il a bien le droit, le vigneron, d'en choisir le contenant. Pourquoi ne pas le laisser faire? Franchement, elles sont si belles que ça, ces vieilles outres, pour qu'on tienne à tout prix à les conserver. Alors oui, on est comme on est. Vous connaissez cette expression. Mais Jésus ne veut pas, ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il veut nous transformer. L'acceptons-nous vraiment? C'est fou comme il est confortable de rester ancré dans le rôle qu'on a toujours tenu. C'est fou comme il est confortable de conserver l'image que les autres ont de nous, la personnalité qu'on s'est construite, même lorsqu'on connaît nos travers. Je sais que mes proches ou mes collègues n'aiment pas ma manière de toujours la ramener, de vouloir avoir le dernier mot. Je sais combien ça me joue des tours. Et pourtant, c'est tellement confortable de rester conforme à cette image, à ces attentes que les gens ont de nous, même quand ils les trouvent désagréables. Nous avons toujours été comme ça, n'est-ce pas? Toujours un peu hautain, un peu jaloux, un peu colérique, un peu brutal, un peu volage, un peu rancunier. Comme ça, à nous accommoder du même petit mensonge sur nous-mêmes, d'une petite phrase assassine, d'un mini blasphème ou d'une compromission avec la parole, d'un léger acceptable. Eh bien, ce comme ça, cette vieille outre à laquelle on s'accroche, c'est ce que Paul appelle la chair. Je vous lis dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. On les connaît, les œuvres de la chair. Libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine au pluriel, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Alors, j'ai exprès renversé le passage, je vous ai lu la fin, maintenant je vous lis le début. Donc, toujours dans Galates 5, mais à partir du verset 13. Vous, et je terminerai là-dessus, vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi dont on a parlé, la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit, et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est de l'antagonisme. Pour que ce que vous voulez faire, vous ne le fassiez pas. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Je crois que c'est ce que les auditeurs de Jésus devaient comprendre. Et ma prière, c'est que nous l'entendions aussi ce matin. À vin nouveau, outre neuve. Amen.